Merci Seigneur de ce que ce matin nous avons encore le privilège et la liberté d'ouvrir ta parole. Et nous voulons le faire avec sérieux, avec attention et avec, Seigneur, la retenue qui est liée à l'inspiration que tu en as faite et qu'aujourd'hui tu veux nous parler au travers de ta parole. Seigneur, bénis cet instant ainsi que ceux qui sont en école du dimanche aussi. Te prions au nom de Jésus. Amen. Alors je lirai un passage dans les Actes chapitre 8, versets 27 à 35. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. » Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà le premier disciple d'Afrique qui fut amené à Christ par le moyen d'un exposé biblique. Le ministre des Finances d'Éthiopie, rien que ça, il avait déjà été attiré par le judaïsme, c'est pour ça qu'il est venu en Israël. À travers l'explication de Philippe, il arriva à comprendre à la fois le texte de l'Ancien Testament qu'il lisait, puisqu'à l'époque, les Écritures, il n'y avait pas de Nouveau Testament, et qu'il était en train de lire, et en même temps il a compris qui était Jésus, au travers de la lecture du texte de l'Ancien Testament. Alors, c'était quoi ce texte ? Eh bien, Luc cite dans son récit des Actes, et il est aisé à reconnaître, c'est le passage d'Ésaïe 52, qui est bien connu, Ésaïe 52. On va parler de trois, parce qu'en fait, il y a quatre passages d'Ésaïe qui s'appellent les chants du serviteur. Là, c'est juste le quatrième chant du serviteur. C'est quelque chose qui est connu par les rabbins. C'est les quatre chants du serviteur. Donc ça commence effectivement Ésaïe 52, mais ça continue Ésaïe 53. Je vais juste lire, pas les quatre chants, mais juste le quatrième. 53, verset 13. Alors attendez. 53, verset 12, parce que je ne voulais pas tout lire. Je lis juste la fin du verset 13, verset 11 et 12. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'il aura de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour des coupables. Ce texte est appelé le quatrième chant du serviteur, car il y a au moins trois autres passages qui font partie du livre d'Ésaïe, auxquels il est rapproché. Le premier se trouve dans Ésaïe 42, 1 à 9, et commence par la même formule. Voici mon serviteur. Ce voici mon serviteur montre les affinités marquées par le langage et la pensée avec le premier et le quatrième. Il se réfère au même personnage et il ne serait pas incorrect de dire que le passage au sens large que Philippe, sur lequel a basé sa prédication, était l'ensemble des chants du serviteur. Il y en a qui ont entendu parler du chant du serviteur. Leur utilisation par Philippe n'est pas un cas isolé. Cette histoire est plus que le récit d'un touchant incident, d'autant plus que Philippe a été télétransporté par le Seigneur. Il est aussi une illustration significative de la façon dont l'Église primitive considérait ces passages prophétiques et de la place centrale qu'il tenait dans la pensée et le témoignage chrétien, à une époque où la puissance du Saint-Esprit commençait à se répandre. Alors, si on regarde le serviteur, hein, mon serviteur, dans la prédication apostolique, on voit les preuves que nous donne l'Église de Jérusalem, qui est la première Église qui a été créée peu après la Pentecôte. On voit dans Actes 3 et 13 que Jésus est appelé le serviteur quatre fois. Jésus a été prêché d'abord comme le serviteur. Pierre donne un résumé clair de l'enseignement du quatrième chant dans le discours courageux qu'il adresse à la foule lorsqu'il s'adresse la première fois à la foule dans Actes 3, chapitre 13 à 15, versets 13 à 15. Je le lis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. En cours abasourdi par la fantastique expérience qu'il venait juste de vivre au moment de la Pentecôte, les disciples se sont reposés sur les prophéties du serviteur comme sur une parole ferme qui annonçait par avance l'effet de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, qui révélait avec clarté absolument incomparable la signification de ces paroles du serviteur. Quand le témoignage à Christ s'est tendu aux non-juifs, puisqu'ensuite après, le Seigneur a utilisé les apôtres, y compris Pierre, pour s'adresser aux non-juifs. Le titre de serviteur perdit sa suprématie initiale, sa force initiale, et nous ne le trouvons plus dans la suite des récits des Actes des apôtres. Pourquoi ? Parce que les titres de Christ, de Seigneur, de Fils de Dieu, ont été utilisés à la place de serviteurs, parce que ces titres étaient déjà utilisés dans le monde païen. Et ils étaient plus compréhensibles par des gens peu familiers de l'Ancien Testament que le terme serviteur. Alors ça me renvoie à un débat constant avec Michel, parce que moi, je suis de formation scientifique, elle, formation littéraire. Alors à chaque fois, elle me fait la peau en disant « ouais ». Parce que comme moi, je n'ai pas fait de latin, ni de grec, ni de français, j'étais nul, grammaire était nulle, tout, bon, ça ne m'intéressait pas. Je ne connais pas l'étymologie des mots, donc maintenant que je suis obligé de vous parler, je cherche l'étymologie des mots. Elle dit, mais arrête de chercher l'étymologie, donc l'origine des mots. Elle dit, ce qui est important, c'est que les gens comprennent. Ce mot-là, c'est peut-être étymologiquement juste, mais ils ne comprennent rien, parce qu'il a changé. Il a changé, oui, c'est normal. Je ne comprends rien dans le sens où c'est. Je ne suis pas en train de m'adresser à des intellectuels, ou voilà, on est dans la pratique. Donc elle me fait la peau et dit non, il faut utiliser les mots qui aujourd'hui ont leur signification. Même si le mot a changé, il faut utiliser le dernier. Voilà. Enfin, je vous dis ça, hein, c'était un petit combat entre nous, en privé. pour que. Voilà. Donc. Parfois l'étymologie est juste, mais parfois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bibles maintenant, français courant, etc., qui utilisent des mots qui ont changé de signification. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. C'est pareil, les apôtres, ils ont changé de signification en utilisant les mots Christ, ou un, donc Messie, Seigneur, fils de David, et plus le terme serviteur. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas le serviteur. Vous voyez, c'est ça le problème de notre raisonnement. Blanc, noir, voilà, c'est fini, serviteur n'existe plus. Ça n'a rien à voir. C'est juste une façon dont les apôtres ont parlé de Jésus. Le titre de serviteur, plus qu'aucun autre, requiert une connaissance de l'arrière-plan historique pour être compris. Voyez-vous le contexte, hein ? Un texte en dehors du contexte est un prétexte. Donc il faut toujours chercher l'arrière-plan historique pour bien comprendre la signification. Les écrits des apôtres montrent que le thème du serviteur reste important et que les chants du serviteur, donc ces quatre chants d'Ésaïe, jouèrent un rôle décisif dans la formation et la compréhension de Jésus par les chrétiens de l'Église primitive. Tout d'abord Pierre. L'importance de ce thème peut être vue dans la première épître de Pierre, autant que dans son discours à Jérusalem. L'apôtre se base fortement sur le dernier chant du serviteur. Pour aider ses lecteurs, dont la plupart étaient païens, il donne une interprétation de plusieurs versets en les appliquant à la vie chrétienne. Donc ça c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Voilà ce qu'il dit. « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Passons à Paul. Paul n'est pas moins dépendant des chants d'Ésaïe que ses collègues de Jérusalem. Dès sa visite à Antioche de Pisidie, au cours de son premier voyage missionnaire, il se réfère au deuxième chant du serviteur comme étant accompli par son action missionnaire, qu'on trouve dans Acte 13, qui confère à Ésaïe 49. Écrivant à l'église à Rome, il cite la complainte d'Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Il le dit dans Romains 10. Et dans ce texte, il tire le principe. Voyez-vous, il y a des principes doctrinaux, et Paul est dans les principes doctrinaux. Il tire dans ce texte, donc du deuxième chant d'Ésaïe, que la foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, donc une doctrine de la réforme, eh bien, est basée sur le chant du serviteur. Ce qui, en retour, donne un puissant motif pour prêcher Christ. Voyez-vous, donc la prédication de Christ, c'est ce qu'on entend, vient de Christ. Il tire encore du même chant du serviteur son principe, un autre principe, de se concentrer sur les chants missionnaires non encore évangélisés. Il le dit, je vais là où l'évangile n'est pas encore prêché. Et dans tous ces cas, Paul justifie son activité missionnaire. C'est une question brûlante à l'époque, hein, et pour lui personnellement, qui était attaqué là-dessus. Nous entendons donc un écho très clair des chants du serviteur dans deux autres passages qui marquent les développements dans la théologie de Paul, dont Paul va dire c'est il faut comprendre l'évangile, c'est comme mon évangile. Il parle de mon évangile. Voyez, donc il s'incarne dans la façon de prêcher la bonne nouvelle. Le premier cherche à établir le grand parallèle et le contraste entre les deux Adam. Entre le premier Adam et Christ, qui est le nouvel Adam. Donc c'est dans Romains 5, verset 12. Et dans ce passage, Paul met en contraste la rébellion fatale, la désobéissance de notre premier père, Adam, avec la soumission obéissante de Christ, le nouvel Adam, qui obéit à la volonté du Père. Donc il fait ces deux pendants. En Christ, les hommes, quoique pécheurs, même si nous sommes pécheurs, peuvent maintenant être constitués justes. Vous voyez, la constitution, c'est quelque chose qui établit une identité. Et cette justification ou cet acquittement des beaucoup est le fruit d'un seul acte d'obéissance, d'un seul homme, Jésus-Christ, le serviteur. Et c'est précisément le message du dernier chant du serviteur d'Ésaïe, qui utilise même des termes identiques. Le sauveur juste, le serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. Et là, l'accent est mis sur beaucoup. Un qui justifie beaucoup. Dans Ésaïe 53, verset 11. Paul met aussi l'accent sur l'obéissance de Christ. l'obéissance qui est caractéristique de tout serviteur. Dans la célèbre hymne de Philippe, chapitre 2, versets 5 à 11, la doxologie que je lis très souvent lors de la scène, qu'il a soit écrite lui-même, Paul, ou soit adaptée à sa lettre, qui peut être un chant de l'Église primitive. Contrairement à Adam, qui a convoité l'égalité avec Dieu, Jésus-Christ est venu pour servir. Voyez-vous, là, il y a un thème qu'on reverra dans le forum au niveau du ministère féminin. Adam a convoité l'égalité avec Dieu, parce que Satan lui a fait envie d'avoir cette capacité d'être Dieu, alors que Jésus est venu pour servir. Voyez-vous, exactement l'inverse. Il s'est humilié, Jésus, même jusqu'à la mort. Il a livré sa propre vie pour servir les autres. Parce qu'il a accepté ce chemin de souffrance, il a été élevé, exalté le plus haut possible. On pourrait presque dire qu'on est en train de lire le dernier chant du serviteur. Dans une autre version, et les deux hymnes, tant les deux hymnes se ressemblent. Venons-en à Matthieu, les évangélistes. Encore et toujours dans le Nouveau Testament, nous rencontrons des citations ou des allusions au chant du serviteur. L'évangile selon Matthieu, à deux reprises, indique que les passages relatifs au serviteur ont été accomplis dans le ministère de Jésus. Le premier est cité en relation avec ses miracles de guérison, qui sont un fruit de son sacrifice. Vous connaissez tous que c'est dans les sacrifices et meurtrissures de Jésus que nous avons la guérison. Et la seconde citation illustre le rejet par Christ de la publicité bruyante que le peuple voulait lui faire, et qui savait qu'il était faux, puisqu'après, ils ont crié crucifie-le. L'Épître aux Hébreux parle aussi du serviteur. Il souligne l'affirmation du prophète dans Hébreux 9. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et Jean, comme Paul, rappelle la prédiction d'Ésaïe sur l'endurcissement du cœur d'Israël, dans Jean 12, qui renvoie à Ésaïe 53. Parlons de l'évangéliste Jean. Jean rapporte aussi dans la phrase magnifique par laquelle Jean-Baptiste salua Jésus, « Voici l'agneau de Dieu », on l'a chanté ce matin. Ce titre « l'agneau de Dieu » nous renvoie probablement à de nombreux types de Christ dans l'Ancien Testament, mais il peut difficilement être séparé des chants du serviteur qui compare le serviteur à une brebis soumise, conduite à l'abattoir. L'agneau de Dieu allait ôter ou prendre, les deux sens sont présents, le péché du monde. Le serviteur allait supporter les péchés du coupable, les péchés de beaucoup. On a le terme beaucoup. Des érudits ont signalé que le même mot araméen, talia, peut signifier à la fois agneau et serviteur. C'est intéressant. Alors, cette avalanche de références bibliques devrait être suffisante pour notre démonstration ce matin. Dans toutes les parties du christianisme du Nouveau Testament, on trouve des passages sur le serviteur qui sont une clé pour comprendre l'œuvre de Jésus. Alors, une question se pose, comment cela se fait-il que ces auteurs soient si unanimes ? On pourrait répondre, c'est simple, parce que c'est évident. Les descriptions d'Isaïe collent si bien au Jésus historique qu'on ne peut pas faire autrement que de les rapprocher. Alors, les évangiles montrent clairement que Pierre et les autres n'ont pas innové en appliquant les prophéties du serviteur à Jésus, parce que Jésus lui-même l'avait fait le premier. Alors, voyons Jésus. Le serviteur, dans la compréhension de Jésus lui-même. Jésus fut le premier à voir que le serviteur n'était autre que lui-même. C'est en faisant référence à la fonction et à la personnalité du serviteur qu'il a interprété sa propre messianité. La christologie, donc la science de Christ, dans la théologie de Jésus, c'est la façon dont, comme Messie, comme oint, il a vu sa propre personne et sa mission. Elle a été résumée ainsi. Jésus a rejeté l'attente habituelle matérialiste du Messie, celui qui allait venir sur un plan politique pour libérer le peuple d'Israël des Romains dont ils étaient colonisés. Sa vision était plutôt un mélange équilibré du concept messianique entre deux autres personnages. Alors, ça c'est très bien expliqué dans la théologie de l'âne. On est tout à fait cohérent et qu'on étudie le samedi soir. Ces deux personnages sont quoi ? C'est pas le héros hein, dominant. C'est d'abord le fils de l'homme. Le fils de Nol que Daniel vit en vision dans Daniel 7, verset 13, il dit « Il y eut un être céleste entrant dans la présence de l'Ancien des Jours, donc c'est le Dieu éternel lui-même, à qui le pouvoir royal, un pouvoir incorruptible, fut donné, c'est-à-dire la domination sans fin, contrairement à celle d'un roi terrestre. » Le deuxième figure dont Jésus parle, c'est le serviteur souffrant d'Ésaïe. Jésus comprit que le Christ, le Fils de l'homme, et le serviteur étaient une seule et même personne, lui-même. Un David, un héros, qui va sauver de Goliath pour libérer Israël de son joug politique. Jésus vit que le véritable Messie n'était pas seulement le fils de David, comme le Messie royal devait l'être, mais comme le Seigneur de David. C'est le Seigneur qui dit à son Seigneur. C'est Matthieu 22, verset 41. Le chemin du triomphe pour ce Messie, par lequel son royaume éternel pourrait être établi, ne passait pas par des exploits militaires. Il vaincra ses ennemis, comme Ésaïe l'avait prévu, en se livrant lui-même à une mort expiatoire. Et vous, ça dépasse la raison humaine. On ne peut pas imaginer qu'un roi régnerait au travers de sa mort. Eh bien, Jésus confond les raisonnements humains et la sagesse humaine. Plus d'une fois, au cours de son ministère, Jésus fait allusion au chant du serviteur. Une fois, Jacques et Jean réclamèrent le privilège de s'asseoir de chaque côté de Jésus, vous rappelez cette scène, quand il viendra dans sa gloire. Alors Jésus les reprit, il ajouta de manière significative que le chemin vers la gloire dans son royaume est à l'opposé total de ce qu'il est dans le monde. Pour les dominateurs humains, l'exercice de l'autorité veut dire écraser les autres. Mais le premier parmi ceux qui suivent Jésus doit être serviteur de tous. Est-ce que nous ne voyons pas ça, y compris dans l'Église parfois ? On veut des places, quitte à écraser celui qui est en bas. Il y a même Michel qui a entendu un jour que dans l'église, ils ont tabassé le pasteur, quoi, voilà, devant tout le monde. Quoi. Vous voyez, on arrive à des choses incroyables dans l'église. Hein. Voilà, on veut dominer, on veut prendre le pouvoir. Et Jésus dit, c'est exactement l'inverse dans le royaume de Dieu. Alors vient la phrase décisive. Le fils de l'homme, rappelez-vous bien ce personnage, le fils de l'homme, et Georges Lade l'explique très très bien ce que c'est que le fils de l'homme, et en particulier dans l'évangile de Jean. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Marc chapitre 10, verset 45. C'est un résumé du dernier chant du serviteur avec ce mot caractéristique « beaucoup ». Prenez le dernier repas que Jésus a inauguré, que nous allons prendre tout à l'heure. Jésus trouva une autre occasion de rappeler le passage du serviteur. Notre Seigneur avait averti ses disciples des ténèbres qui allaient bientôt tomber sur eux. Il avait utilisé un langage figuré qu'ils ne comprirent pas. Alors il leur dit aussi clairement que possible, « Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » À savoir, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver, dira-t-il dans Luc, chapitre 22, verset 37. La façon dont Jésus cite ce texte est des plus intéressantes. Il révèle pourquoi Jésus a si souvent utilisé cette expression « il faut que ça arrive ». De façon répétée, Depuis que Pierre l'a confessé comme Christ à Césarée de Philippe, rappelez-vous, on a établi l'Église, Jésus dit à ses disciples, peu clairvoyants, que le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, que le Fils de l'homme doit souffrir, qu'il doit mourir, puis ressusciter. Pourquoi Jésus dit-il « doit »,« devoir » ben, certains textes répondent « parce que l'Écriture l'indiquait ». Mais quelle Écriture, plus précisément ? Bien, d'ordinaire, cela ne nous est pas dit, mais seulement ici, cela est révélé, c'était dans les chants du serviteur que Jésus a trouvé ce chemin. Il y a d'autres passages de l'Ancien Testament, je ne vais pas les prendre ce matin, dans les prophéties sur la croix, comme dans Zacharie ou d'autres qui sont un peu plus compliqués, mais qui parlent du serviteur. Nous sommes donc renvoyés dans la question de Jésus serviteur au chant du serviteur, les quatre chants d'Ésaïe. À travers eux, notre Sauveur a trouvé les lignes directrices de sa mission. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, je crois que ceux qui évangélisent les juifs, quand un juif qui cherche Dieu et qui est juif, on leur fait lire ces chants du serviteur, il ne peut pas. Il est bloqué. Voilà. Quand il cherche le Seigneur. C'est aussi une manière pour vous de pouvoir évangéliser les juifs. Parce que quand ils sont convaincus, ils voient que c'est Jésus, puisqu'ils connaissent aussi l'histoire chrétienne. Donc sur quel terrain saint nous nous trouvons quand nous étudions ces chants, qu'il est émouvant d'imaginer Jésus méditer sur ces passages lui-même, sachant que c'était la volonté du Père qu'il passe par ce chemin du serviteur souffrant. Nous devons être des serviteurs, car nous ne sommes pas plus grands que notre Maître, vous le savez. Est-ce que nous le réalisons dans la vie de tous les jours? Dans l'âge présent, nous devons imiter notre maître et non chercher à dominer. Le fameux dominionnisme, vous voyez, qui cherche à... Non, nous devons imiter notre maître. Ce temps viendra, la domination, donc le mandat de dominer, lorsque Jésus se révélera comme le Messie triomphant. Nous n'en sommes pas là encore. Alors de quel service s'agit-il? Car l'expiation n'est plus de mise. Jésus a expié à la croix nos péchés. Mais aujourd'hui, il y a des services. Et j'en parlais récemment à Philippe, ne serait-ce que le dimanche dernier, et qui disait, ouais, les pasteurs qui disent, ah, ils sont serviteurs, mais nous aussi, on est serviteurs. Ben, je te rassure, Philippe, je suis d'accord avec toi. On est tous serviteurs. Et c'est pour ça que la vision ternaire de l'Église aide à comprendre que nous sommes tous serviteurs, mais pas exactement de la même manière. En fait, il y a six services où nous devons servir dans l'Église. Six services qui sont tous reliés. On peut les séparer dans l'analyse que je vais faire, mais en fait, ils sont tous un. Un peu comme la Trinité, où il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est trois en un, ou un en trois. D'abord, le service pour Dieu. Le service pour Dieu, tous, nous avons ce service qui est le service du sacerdoce royal. Vous savez ce que c'est que le sacerdoce royal? Allô? Ouais, c'est des mots. Voilà. Alors, là, Michel, tu vas m'aider à expliquer le sacerdoce royal. C'est comme le propitiatoire, on n'arrive pas à bien comprendre tout ça. Mais le sacerdoce royal, c'est simplement être sacrificateur. Le problème, c'est que le mot prêtre en Église catholique est dévié parce que prêtre, ça veut dire ancien, presbytérium. Donc, on ne comprend plus entre ancien et en fait, sacrificateur, ça veut dire apporter des sacrifices. Et quel est le sacrifice qu'on doit apporter? C'est le dimanche matin, au culte, entre autres, mais tous les jours. C'est d'apporter des sacrifices de louange qui confessent son nom. Alors? Et c'est pour ça qu'on va faire du commun dans la louange pour que chacun, comme je vois, ça se fait de manière formidable maintenant, où chacun apporte à sa manière, pas juste des chants préparés d'avance, mais aussi chacun apporte un sacrifice de louange. C'est ça, sacrificateur. C'est que chacun devrait amener des sacrifices, qui ne sont plus des animaux qui renvoyaient de manière prophétique à ce que Jésus allait faire une fois pour toutes aujourd'hui, ce sont des sacrifices de louange. C'est notre corps tout entier, nous devons l'apporter au Seigneur. Et quand vous voyez la louange dans l'Ancien Testament, la spécialiste, c'est Marie-France qui nous a apporté ça en son temps, mais qui est toujours vrai dans l'Ancien Testament, la louange, l'adoration, c'était des actes physiques. Et si on a enlevé les chaises, c'est pour que justement les actes physiques peuvent participer à la louange. C'est l'adoration, c'est se coucher par terre. L'adoration, c'est se lever. L'adoration, c'est de danser. L'adoration, c'est faire du mouvement. Parce que maintenant, la danse, effectivement, est dévoyée, donc on passe au mouvement. Voilà. Mais peu importe, c'est le corps qui participe. Parce que le corps, il va être glorifié, puisque notre corps sera un corps de résurrection comme celui de Jésus. Donc commençons maintenant à le croire, c'est la foi. Vous voyez, quand on danse ou quand on fait du mouvement, si vous voulez, signifiant, qui signifie une adoration, eh bien, on anticipe la résurrection qu'on va avoir, que notre corps sera totalement libre. Ce qui n'est pas le cas à ce moment. Donc nous sommes serviteurs de Dieu dans ce cadre-là du sacerdoce royal. Deuxièmement, nous sommes au service pour le monde. Allô ? Tu es, moi je suis, tout le monde est. Il n'y a pas de pasteur, pas de pasteur. Nous sommes au service du monde. Nous devons annoncer l'évangile au monde. Et pas juste annoncer avec la parole, mais aussi avec notre comportement. Nous devons être des serviteurs dans le monde. Non pas dominer, chercher à dominer, mais chercher à servir. Allô ? Vous avez déjà remarqué ça ? Que dans le monde, vous êtes sollicité, hein, à réagir. Est-ce que vous le faites ? Bon. On a la chair, donc des fois on le fait. Mais rappelons-nous que Jésus a dit que le plus grand soit le plus petit. Alors, ça mérite une dose d'équilibrage, on en parlera au forum, ça fera partie de nos débats. Hein. Comment servir en étant serviteur, tout en n'étant pas un paillasson, c'est tout le débat. Mais on peut, par la grâce du Seigneur, parce que nous sommes appelés à servir le monde. Le social, si vous voulez. Et l'ESS en fait partie. Troisième service, le service du bien commun. Ce sont les trois invariants de l'Église. Sacerdoce, le social et le bien commun. C'est quoi le bien commun ? C'est le fait qu'on ait un bâtiment. C'est le bien commun. Si on est là, parce qu'on l'a acheté, qu'on peut en faire des activités, etc. Le bien commun, c'est quoi ? C'est le fait qu'on est organisé. Si on était désorganisé, ça ne pourrait pas exister, l'Église. Donc il faut une organisation. C'est parce qu'il y a des ministères dans l'Église qui s'exercent, etc. Vous voyez, je peux développer comme ça, parce qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des... Voilà, et c'est pour ça que dans notre Constitution, on a utilisé le mot « État » ecclésial, qui « État » n'est pas simplement pour un État-nation. L'État, c'est simplement une entité abstraite qui est un groupe de personnes qui, pour le compte de la collectivité, eh bien, s'investit au quotidien pour l'Église, pour le bien commun. Donc vous participez au bien commun tous, simplement en élisant, en permettant à des gens de vous diriger, mais encore faut-il se soumettre à ces gens-là, sinon ça ne sert à rien de les élire. Vous voyez ? Donc il y a toutes ces notions du bien commun qui est un service. Et certains sont chargés de le faire au quotidien, comme moi, Michel et d'autres, mais nous sommes tous engagés dans ce service du bien commun. Le cinquième service, qui fait toujours partie de l'Église, qu'on ne peut pas séparer, mais qui on peut distinguer, c'est l'édification des croyants. Et l'édification des croyants se fait par les ministères dons que Christ, qui est descendu aux enfers et qui est monté au ciel, et il a renvoyé des dons à son Église. C'est comme ça que ça se passe. Il est descendu, il est monté, et il a envoyé des dons. C'est Éphésiens 4, verset 3. Et il donne des dons qui sont stables pour certains, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Puis d'autres dons dans 1 Corinthiens 12 et 14, qui sont des dons qui sont donnés par la main dansante de Dieu dans une assemblée. Et ça, tous, vous devez aspirer à les recevoir et les exercer. Par exemple, pendant ce culte, Ruben peut avoir un don de guérison, Chimène peut avoir un don d'exhortation, donc voilà. Et le dimanche prochain, ça peut être sur Claire, etc. Vous voyez, ça crée une dépendance. Nous devons dépendre du Saint-Esprit, l'attendre, le Saint-Esprit. C'est ça faire du commun. C'est ça que David Alonso a voulu dire. Oui. Donc nous sommes tous aussi inclus dans ces ministères dons que nous devons rechercher pour servir les croyants dans l'édification. Cinquième don, c'est le service pour élaborer des plans d'action. Ce n'est pas des plans d'action pour agir, eh bien, c'est les choses changeantes. Depuis qu'on a créé cette église, tous les ans, on a des plans d'action basés sur l'inspiration que Dieu nous donne pour que chaque année, on puisse avancer, établir des choses dans l'église, etc. Et ces plans d'action, eh bien, sont reçus par le Saint-Esprit pour les appliquer. Et ensuite, après, il y a un autre service, c'est de conduire ces plans d'action. C'est le pasteur opérationnel qui est chargé de conduire ces plans d'action. L'autre, c'est le pasteur principal. Donc, vous voyez, il y a 6 manières de servir dans l'Église, sans parler d'autres formes de service. Donc, nous sommes dans cet esprit du serviteur. Est-ce que nous voulons être comme Jésus, qui n'a pas cherché à arracher d'être égal avec Dieu, mais qui a compris que celui qui est annoncé dans Ésaïe, c'est le serviteur souffrant. Et ce matin, on a parlé de souffrance. On a parlé parce que vous souffrez, on souffre tous. Hein. Même Jésus a souffert. Mais ce qui est incroyable à comprendre, c'est qu'il est dit que c'est par les souffrances que Jésus a appris l'obéissance. Donc ça veut dire que c'est grâce aux souffrances que nous apprenons l'obéissance. Mais si nous voulons éviter la souffrance, nous n'allons pas apprendre l'obéissance. Alors, difficile ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Or, vous voulez tous servir Jésus, vous voulez tous être des disciples de Jésus, suivez ce qu'il dit. C'est comme Marie disait, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dit, la souffrance fait partie. Et aujourd'hui, on ne peut pas dominer. On ne peut pas dominer. Le Seigneur, il ne règne toujours pas pleinement, parce qu'il est dit dans sa parole que Dieu va mettre les ennemis sous ses pieds. Donc il y a encore des ennemis. Oui, donc comme il y a des ennemis, ça veut dire que son plan est contrecarré, son règne est contrecarré, parce qu'ils ne sont pas encore tous anéantis. Mais on est en marche. On est en marche. Donc ça, c'est l'espérance. Mais en attendant, nous sommes comme Jésus. Pas pour expier des péchés, la souffrance, mais pour participer à l'obéissance qui est liée au serviteur. Prions un instant. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Même si elle nous choque, même si elle nous heurte, même si ça ne va pas à l'encontre du politiquement correct dans l'Église, Seigneur, où il faut que tout va bien, tout marche bien, etc. On l'a vu avec le témoignage de David Alonso, qui aussi était sur une pente de réussite et qui a appris avec son fils ce que c'est que la souffrance. Mais Seigneur, merci pour cette souffrance, non pas pour elle-même, mais parce qu'au travers de la souffrance, nous apprenons, Seigneur, l'obéissance. L'obéissance, malgré les choses qui ne vont pas, nous cherchons à obéir à ta parole. Seigneur, donne-nous ce caractère de persévérance, ce caractère, Seigneur, qui cherche, alors que le monde maintenant est dans l'hédonisme le plus complet qui nous entraîne dans ce courant, Seigneur, au lieu de descendre le courant, que nous puissions le remonter. Parce que l'Évangile n'a pas changé. Parce que l'Évangile, c'est le même. Parce que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est celui qui a été annoncé par les apôtres, qui nous a été légué, qui aujourd'hui est encore le cas. Et aujourd'hui, Seigneur, les choses n'ont pas changé. Te prions de nous aider à aller à contre-courant, non pas pour être rebelles, mais Seigneur, pour pouvoir être des témoins. Seigneur, de qui tu es. Et Seigneur, de qui nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs du Messie souffrant, qui aujourd'hui encore, nous sommes dans cette souffrance en attendant Et les Noirs américains qui l'ont bien chanté dans les gospels, eh bien, montrent que dans cette souffrance, ils pouvaient se réjouir. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi, dans les difficultés comme dans les joies. Et nous te remercions pour cela, Seigneur, que tu aides chacun des membres de cette Église à réaliser cela. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.